session de la famille à la communauté politique le 10 mars 1995 à Rimont. Cours par le père Marie-Dominique Gouthière. Troisième cours.
Ce matin, comment, pour Platon, l'origine de la communauté politique à partir de la nécessité, ce qui va nous permettre de saisir ce qu'est la justice. Et on verra dans cette lumière, j'essaierai de l'aborder dans cette heure-ci, la place qu'a la famille pour Platon dans cette lumière et dans la communauté politique. Et c'est très intéressant de voir ça, que vous voyez, l'ordre que prend Platon pour comprendre la justice dans l'individu, Platon prend comme, si vous voulez, comme méthode, comme démarche, de la regarder dans la cité. Ça, on a vu ça ce matin. Et donc, pour cela, il dit qu'il doit construire une cité qui est une cité, vous voyez, idéale. Je vais y revenir tout à l'heure, je vous citerai un passage dans le livre 5 qui est très éclairant à cet égard. Construisant cette cité idéale, on voit dans cette lumière ce qu'est la justice. Parce que la cité idéale, c'est celle où réside la justice. Peu importe, dira Platon, qu'elle soit réalisée ou pas. L'essentiel, c'est qu'elle existe dans l'esprit du philosophe. Et alors, il dit, cette cité idéale, elle dépend d'un monde divin que le philosophe contemple, qui est commandé par le bien en soi. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, vous voyez, regarder la cité idéale, c'est comprendre, j'allais presque dire, ce qu'est la justice en soi. La justice telle qu'elle doit exister. Cette justice, je vais y revenir dans un instant, on va voir ce qu'elle est. L'ayant comprise dans la cité, je peux à nouveau la découvrir dans l'individu. Donc vous voyez, il y a une espèce de nécessité qui clôt l'individu et la cité l'un sur l'autre, si vous voulez. La famille n'apparaît pas avec quelque chose de naturel pour Platon. Elle va apparaître uniquement dans cette organisation de la cité. Vous voyez, c'est dans l'organisation de la cité que la famille va apparaître. Comme ce qui permet uniquement... Vous voyez, et c'est pour ça que pour Platon, il n'y a d'ailleurs pas de famille, ce n'est pas une communauté. Le lien entre l'homme et la femme est uniquement un lien naturel de rencontre, dira Platon, pour la procréation uniquement. Et Platon légitime aussi bien l'eugénisme que l'avortement. C'est très intéressant, je vais vous lire ce passage. Vous voyez, c'est uniquement donner des enfants à la cité. Et comme Platon dit qu'il y a quelque chose qui est fondamental, qui est naturel dans la cité, qui est les individus, appartiennent à une classe en fonction de leur nature. Donc ce sont des qualités naturelles qu'ils ne choisissent pas. Il faudra, dit Platon, que le gouvernant légifère sur les mariages. Donc le mariage ne repose pas sur un choix libre, c'est le gouvernant qui impose à un tel d'épouser une telle. Oui. Et encore, ce n'est pas d'épouser, c'est uniquement de rencontrer une telle afin qu'il y ait le meilleur produit possible. Oui. Donc c'est très important, oui, cette vision de Platon. Oui, je dirais que c'est très intéressant, parce qu'on retrouve des choses très analogues aujourd'hui, vous voyez, peut-être pas dites avec la même crudité, je dirais. L'avantage de Platon, c'est qu'il parle en grosses lettres, vous voyez. Donc au moins, on voit de quoi il s'agit, vous voyez. Et qu'aujourd'hui, c'est en petites lettres, donc Platon nous aide pour ça, vous voyez. Et parce que Platon a quand même quelque chose de grand, vous voyez. Alors, je vais maintenant, vous voyez, vous relire encore quelques passages, je ne vais pas trop m'attarder sur Platon, je vais prendre Aristote ce soir, parce que sinon... Alors... Je vais prendre simplement quelques passages pour vous montrer comment Platon conçoit ce que c'est que la justice. Ça, c'est très intéressant à voir. Et puis après, je vous parlerai de la place du philosophe comme gouvernant. Donc, à présent, dis-je, tu peux, fils d'Aristone, considérer la cité comme fondée. Vous voyez, fonder la cité, c'est à partir des besoins, vous voyez, à partir des besoins fondamentaux de l'homme, dont on a vu que c'était les besoins fondamentaux liés au corps. À cause de mon corps, je suis forcé de satisfaire certains besoins naturels. Et donc, pour cela, je m'appuie sur les autres. Vous voyez, c'est uniquement une nécessité de nature. C'est ça qui est intéressant. Alors, en plus, vous voyez, ce qui est important à voir, c'est que pour Platon, le corps étant le tombeau de l'âme, c'est une nécessité qui est malheureuse pour l'âme. Donc, je suis contraint par cela. C'est pour ça que l'âme ne peut pas être complètement heureuse dans la cité. Je dois subir, si vous voulez, la vie commune. Je vis avec d'autres. Le corps, qui m'impose cette vie commune par les besoins qu'il réclame, voyez, en fait, lie l'âme aux autres. Donc, la meilleure manière de pouvoir échapper à cela, se libérer de cela, c'est de vivre dans la justice. Que chacun soit à sa place et fasse ce qu'on lui demande. C'est déjà difficile d'être ensemble, mais alors au moins que chacun fasse ce qu'on lui demande. Voyez, c'est ça la justice. Voyez. En fait, c'est ça, vous voyez, Platon. La justice, c'est ordonner la cité de la meilleure manière possible pour qu'on puisse, en vivant selon cet ordre, se libérer progressivement des contraintes du corps. Vous voyez, c'est pour ça qu'au fond, pour Platon, hein, quand il est, je dirais, il manque quand même pas de toupet quand il dit que ce qu'il veut, c'est le bonheur de tous. Parce qu'en fait, il n'y en a qu'un seul qui est heureux dans la cité pour Platon, c'est le philosophe roi. Parce que c'est celui qui gouverne, et c'est lui seul qui atteint le vrai bonheur, c'est la contemplation. Les autres, je dirais, le tout, ce qui soit à leur place, qu'on fasse ce qu'on leur demande, et puis c'est tout, vous voyez. Alors, ils sont heureux selon ce qu'ils peuvent recevoir chacun, vous voyez. Mais il y a un mépris chez Platon, et qui est, enfin, je dirais, une espèce d'élitisme philosophique. Vous savez, pour Platon, on est philosophe par nature. Parce qu'on naît avec un naturel philosophique. Et ensuite, il suffit que l'éducation ne nous pervertisse pas trop pour qu'on aboutisse et qu'on devienne nécessairement gouvernant. Vous voyez, c'est très étonnant comme conception, hein, donc je poursuis ça. Vous voyez, on peut considérer la cité comme fondée. Il ne reste plus qu'à y trouver l'objet de nos recherches, donc la justice. Hein. Procure-toi donc quelque part un flambeau approprié et appelle à ton aide ton frère Polémarque et les autres et voyons ensemble, alors là c'est très intéressant, en quel endroit réside la justice, en quel endroit l'injustice, en quoi elles diffèrent l'une de l'autre et à laquelle des deux il faut s'attacher pour être heureux, qu'on échappe ou non au regard de tous les dieux, de tous les hommes. Vous voyez, ça c'est très intéressant ce que Platon cherche. Hein. Pour comprendre où se trouve la justice, vous voyez, qu'est-ce que c'est que la justice, on va regarder où elle se trouve. Donc vous voyez, ça c'est très important. C'est par le sujet que la justice vient qualifier qu'on va découvrir ce qu'elle est. Et Platon dira, la justice conçue de cette manière, je n'en ai pas une connaissance parfaite. Mais autant que c'est nécessaire pour fonder la cité. La connaissance parfaite de la justice, elle ne sera plus à partir de là où elle réside, mais dans la lumière du bien en soi. C'est ce que Platon dira au livre 6 et 7, hein, quand il montre ce que c'est que le bien en soi, et qu'il y a tout le fameux mythe de la caverne. Donc j'y ferai allusion tout à l'heure. Tu parles pour rien, dit Glaucon, puisque tu t'es engagé à faire cette recherche toi-même. Te déclarant impie si tu ne te portais pas au secours de la justice avec toutes tes forces et toutes tes ressources. Alors, vous voyez, Platon va passer par un métaxu qui est très intéressant. J'espère que nous trouverons ce que nous cherchons en procédant comme je vais faire. Si notre état est bien constitué, il doit être parfait. Vous voyez, le postulat de base. Hein. L'état est fondé sur des besoins fondamentaux, mais la cité, si on la conçoit, si on la constitue correctement, ce que tout le monde admet, dit Socrate, elle doit être parfaite. Donc, si elle est parfaite, elle doit être prudente, courageuse, tempérante et juste, dit Socrate. Vous voyez, c'est Platon, hein, par la bouche de Socrate, parce que Socrate n'aurait jamais dit ça. Et c'est très intéressant, ces quatre aspects. Qu'est-ce que c'est que la perfection de la cité ? Oui, c'est là qu'on voit qu'il y a des choses que Platon dit sans les justifier. Et pour ça, c'est intéressant. Oui. La cité étant constituée est parfaite. Et qu'est-ce qui constitue la perfection de la cité ? Ce sont les quatre vertus cardinales. Et d'où ça vient, ça ? Oui. C'est très intéressant, vous voyez, que Platon ne pose pas ici la question de l'origine des vertus. Alors, il a dit, vous vous rappelez, on a vu ça ce matin, hein, que la vertu, elle est toujours relative à quelque chose. Elle est relative à l'âme. Ah, voilà l'origine. Pour Platon, rappelez-vous, hein, on a vu la cité, c'est l'assemblage, hein, des individus, unis par une nécessité commune. Donc, la perfection de la cité repose sur celle des individus. Or, qu'est-ce que c'est que l'âme parfaite, pour Platon ? C'est l'âme qui possède les quatre vertus cardinales. Ça, il le dit dans le Protagoras. Dans le Protagoras, Platon dit, en faisant encore parler Socrate, les quatre vertus, c'est le visage de l'âme. Et il justifie tout cela dans le Protagoras. Et donc, si nos âmes, si les âmes des individus qui sont dans la cité sont parfaites, la cité sera parfaite. Alors, vous voyez, on va voir dans la cité où réside chacune des vertus. Et dans cette lumière, on regardera à nouveau l'individu. Vous voyez, dans cette lumière, on essaiera de voir où réside la justice dans l'individu. Alors, je continue ça. Vous voyez. Il est donc évident, vous voyez, Delon, hein, le grec, il est évident. Vous voyez, on admet ça comme le point de départ. Si la cité est parfaite, on admet qu'elle implique les quatre vertus. Là, il y aurait une critique très intéressante à faire, oui. Parce que c'est d'où ça vient. Alors, donc, quelle que soit celle de ces vertus que nous découvrirons en elle, dans la cité, le reste sera ce que nous n'aurons pas trouvé. Suppose qu'il s'agisse de quatre choses présentes en un endroit, et que nous en cherchions une. Quand nous aurions trouvé cette première chose, nous nous en tiendrions là. Mais si nous avions auparavant les trois autres, nous aurions reconnu par cela même celle que nous cherchions, car il est évident que ce que ne pourrait plus être que celle qui resterait. C'est exact. Ne faut-il pas pour ces vertus qui sont justement quatre, suivre la même méthode ? Donc que va faire Platon ? Il va regarder chacune des vertus, et celle qui ne sera pas encore découverte, ce sera la justice. Vous voyez ? On commence par regarder les vertus. Donc Platon va commencer par la vertu de sagesse, qui pour lui est la même chose que la prudence. Oui. Ça c'est très important, Platon ne distingue pas Sophia, la sagesse, et Phronesis, la prudence. Le premier qui distinguera ça en philosophie, c'est Aristote. Pour Platon, c'est identique. Alors, la sagesse et la prudence, dit Platon, c'est la vertu des gouvernants. Gouverne, doit gouverner celui qui possède la prudence et la sagesse. Oui, je passe tout ça, parce que ce serait très intéressant de voir tous les détails dans la manière dont Platon raisonne, mais on n'a pas le temps de faire ça. Donc, vous voyez, je vous résume ça pour situer la justice. La deuxième des vertus, c'est la vertu de force, ou le courage. Donc, ça, c'est la vertu des guerriers. Donc, vous voyez, qu'est-ce que fait Platon ? Il attribue une vertu à chacune des classes de la cité. Donc, vous voyez, on a vu ce matin comment progressivement la cité se fondait, qu'elle impliquait une distinction des classes de citoyens, les artisans, les guerriers, les gouvernants. Et pour montrer ce que c'est que la justice, il dit que chacune de ces classes doit avoir sa perfection propre. Quelle est la perfection propre des gouvernants ? C'est la sagesse, la prudence, qualité de l'intelligence. Quelle est la perfection propre des guerriers ? C'est le courage, la force pour défendre la cité. Quelle est la perfection propre ? Alors, il ne dit pas seulement des artisans, mais la perfection qui est commune à tous les citoyens, c'est la tempérance. Donc, c'est fondamentalement, dit Platon, ça doit être fondamentalement la vertu des artisans. Parce que, comme c'est la classe inférieure, sa vertu principale, ça doit être d'obéir. Dit Platon. J'évoque la position de Platon. Alors, Platon dit, pour que la tempérance... Oui, pour qu'il y ait un rapport d'harmonie entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, donc entre ceux qui commandent et ceux qui défendent la cité, et puis ceux qui exécutent, il faut qu'il y ait une harmonie minimum entre les deux, donc qu'il y ait une tempérance. Parce que si on est dans les passions, on devient incapable de vivre dans cette harmonie. Oui, c'est pour ça que Platon dit que cette tempérance est une vertu fondamentale. Peut-être je peux vous lire un ou deux passages... La tempérance, dis-je, est une sorte d'ordre et d'empire sur les plaisirs et les passions. S'il faut en croire l'expression populaire assez étrange, ma foi, être maître de soi. Et d'autres semblables qui sont comme des traces laissées par cette vertu. Qu'en penses-tu ? C'est tout à fait cela, répliqua-t-il. Être maître de soi, n'est-ce pas une expression ridicule ? Car celui qui est maître de lui-même est aussi, n'est-ce pas, esclave de lui-même ? Et celui qui est esclave de lui-même est aussi son propre maître, puisque c'est au même homme que ces dénominations s'appliquent dans tous les cas. Sans doute. Mais repris, il me semble que le sens de cette expression est qu'il y a dans l'âme même de l'homme deux parties, l'une meilleure, l'autre moins bonne. Quand la partie qui est naturellement la meilleure maintient la moins bonne sous son empire, on le marque par l'expression « être maître de soi » et c'est un éloge. Quand au contraire, par suite d'une mauvaise éducation ou de certaines fréquentations, la partie la meilleure se trouvant plus faible et vaincue par les forces de la mauvaise, alors on dit de l'homme qui est en cet état, et c'est un reproche et un blâme, qu'il est esclave de lui-même et intempérant. Cette explication me semble juste. Alors voyez, etc. Donc Platon va montrer que pour cette soumission soit possible, il faut la tempérance. Alors, dernière question, vous voyez, qu'est-ce que c'est que la justice, vous voyez ? Donc, on a vu dans la fondation de la cité pour Platon qu'il y a trois classes. Donc, chacune des classes a une vertu. Donc, la justice, où réside-t-elle ? Alors, Platon dit, la justice, c'est la vertu qui est commune à toutes les autres, qui va régler le rapport des trois. Et il dit, être la justice dans la cité, c'est que chacun soit à sa place. Donc, c'est la vertu qui règle, vous voyez, pour Platon, l'ordre du tout, les rapports des classes les unes par rapport aux autres. Et que chacun soit à sa place et fasse ce que la nature lui demande de faire. Et donc, c'est pour ça que pour Platon, au fond, la justice, vous voyez, elle est bien, d'une certaine manière, un certain ordre ultime. Et il dit ici, vous voyez, qu'on comprend chacune des vertus par le sujet qu'elles viennent ennoblir. Vous voyez, la sagesse se trouve dans les gouvernants, la force dans les guerriers, la tempérance dans ceux qui obéissent, dans les artisans. La justice, c'est le rapport entre les trois. Alors vous voyez, Platon dit simplement, mais cette définition de la justice est tout à fait imparfaite, parce qu'au fond, on ne sait pas ce que c'est que la justice. On voit que c'est le rapport qui équilibre la cité, mais on ne peut pas dire plus. Donc, alors il dit, mais pour le moment, on peut s'en contenter. Vous voyez, Platon reste ici, si vous voulez, presque au niveau de l'opinion. Il dit, on peut se contenter de cette conclusion pour le moment. Alors, je vous disais tout à l'heure, on aura une vision plus lumineuse de la justice, ce sera tout l'effort que fera Platon. Il dira, en fait, celui qui doit instaurer la justice, c'est celui qui est le philosophe, qui fonde la cité. Et donc, pour pouvoir ordonner la cité de la manière qui convient, il faut qu'il contemple le bien en soi. Et il réalisera la justice en appliquant le bien en soi à la cité. Donc, ce sera pour Platon ce qu'il y a d'ultime dans la justice dans une vision de sagesse pour lui, ce sera le reflet du bien en soi dans la cité. Vous voyez, alors, j'allais dire pour nous, vous voyez, on dira que c'est tout aussi insuffisant. D'ailleurs, c'est ce que dit Glaucon à Socrate. Il dit, mais tu te contentes de me dire ça, mais qu'est-ce que tu veux que ça m'apprenne de plus? Alors Socrate lui dit, eh bien imagine-toi que le bien en soi, c'est comme le soleil du monde intelligible. Alors Glaucon dit, oui, très très bien, alors quoi? Et le soleil rend tout visible, donc tu comprends ce qu'est la justice grâce au bien en soi. Alors l'autre lui dit, oui, mais ça n'apprend toujours rien. Eh bien, faut que tu t'en contentes, répond Socrate. Et puis ça y est, la discussion se termine, vous voyez. Et alors Platon enchaîne sur le mythe de la caverne. Et c'est très intéressant, vous voyez, que... On voit dans la philosophie de Platon, ce serait une recherche... Oui, il y a quelqu'un qui a fait ça, c'est Frutiger, qui a écrit un livre sur les mythes chez Platon. Mais c'est une recherche très intéressante de regarder Platon à travers les mythes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un point ultime, Platon donne un mythe. Donc, il exprime le fait que, pour lui, les choses fondamentales et ultimes de sa philosophie ne peuvent pas s'exprimer dans un langage philosophique. Il y a des choses ultimes qu'il ne peut exprimer que sous ce langage-là. Alors, je vais y revenir peut-être tout à l'heure, ça, si on a un petit peu de temps. Vous voyez, je vous lis ça. Une fois qu'on a vu ces trois vertus, je reviens sur la justice. Dès lors, Glaucon, c'est à présent que chasseur d'un nouveau genre, il nous faut cerner le buisson et faire attention que la justice ne nous échappe pas et ne se dérobe pas à nos yeux, car il est manifeste qu'elle est quelque part ici. Regarde donc et tâche de la percevoir. Peut-être pourras-tu la voir avant moi et me la montrer. Si je pouvais seulement, s'écria-t-il, mais non, te suivre. Et voir ce que tu montreras, c'est tout ce que je peux faire. Alors, Socrate répond, prie les dieux avec moi, et suis-moi. Donc, c'est difficile, donc prions. Et ça, c'est ce que redira Plotin. C'est ce que je veux faire, marche seulement le premier. Certes, repris-je, l'endroit paraît être fourré, et peu praticable. Il est du moins obscur et difficile à explorer. Il faut avancer, pourtant. Il le faut, dit-il. Et moi, après avoir regardé, « Oh, oh, Glaucon !» m'écriai-je. « Il me semble que nous tenons la piste et que la justice ne nous échappera pas. »« Bonne nouvelle, » fit-il. Oui. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est ce qu'il y a, je trouve, de plus... Enfin, il y a quelque chose de très, très fort chez Platon, oui, du point de vue artistique. Il sait mettre en scène les choses de manière très plaisante. Et Aristote, à côté, apparaît bien sec. Mais... « En vérité, nous sommes bien sots. Pourquoi ?» Il y a longtemps, heureux homme, qu'elle est là, qui semble se rouler devant nos pieds. Mais nous ne la voyons pas. Nous étions tout à fait ridicules, comme les gens qui cherchent parfois ce qu'ils ont dans la main. Nous ne regardions pas de son côté, nous jetions les yeux au loin, et c'est pour cela sans doute qu'elle nous échappait. Alors, vous voyez, alors, c'est ce que nous avons établi dès le début, quand nous jetions les fondements de notre état comme un devoir universel, c'est ce devoir, si je ne me trompe, ou en tout cas quelque forme de ce devoir qui est la justice. Or, nous avons établi, n'est-ce pas, et nous avons répété plusieurs fois, si tu t'en souviens, que chaque individu ne doit exercer qu'un seul emploi dans la société, celui pour lequel la nature lui a donné le plus d'aptitude. Nous l'avons dit, en effet, et que la justice consiste à s'occuper de ses affaires sans s'occuper de celles des autres. Cela aussi, nous l'avons entendu dire à beaucoup de gens, nous l'avons dit souvent nous-mêmes. Ainsi donc, repris-je, c'est cela, s'occuper de ses affaires, qui, pratiqué de la façon voulue, pourrait bien être la justice. Sais-tu sur quoi se fonde cette opinion ? Non, apprends-le-moi, dit-il. Je crois que ce qui reste dans la cité, en dehors des trois vertus que nous avons examinées, tempérance, courage, sagesse, c'est ce qui leur a donné à toutes la puissance de naître et les conserve une fois nées, tant qu'ils demeurent en elles. Alors nous avons dit que la vertu qui resterait, quand nous aurions trouvé les trois autres, serait la justice. Donc vous voyez, c'est très intéressant que pour Platon, la justice est découverte au terme, vous voyez, comme on dit, au fond, il y a une vertu propre à chacun, et donc, en fait, la justice, c'est non seulement ce qui fait l'harmonie des trois qualités, donc des trois classes, mais c'est ce qui donne naissance à chacune des autres. J'acquiers la sagesse comme gouvernant dans la mesure où je fais ce que je dois faire. Et c'est cela la justice pour moi. Vous voyez, la justice, c'est de réaliser ce que je dois réaliser. Et donc, c'est à la fois que chacun fasse ce qu'il doit faire, et c'est par conséquent aussi l'accord des parties entre elles. Oui. Parce que si je fais ce que je dois faire et que je suis à ma place, je ne nuirai pas à autrui. Et donc je respecte la justice. Et c'est très étonnant, hein, parce que c'est au fond une conception de la justice qui est très très individualiste. Voyez. Platon, vous voyez, qui prône le communisme ultime, ce qu'on va voir, hein, au fond la justice, c'est que chacun soit à sa place et ne s'occupe pas du reste. Hein, voyez. Vous voyez, ce qui me semble frappant, hein, on y reviendra tout à l'heure avec Aristote, c'est que vous n'avez pas du tout chez Platon le sens du bien commun. Mais c'est intéressant parce qu'on verra que ce sera la critique qu'Aristote va adresser à Platon. Il va dire, au fond, Platon n'a pas... Il y a un élément qui manque, ce qui fait que sa vision est tronquée. Vous voyez. Alors ici, on le voit surgir avec une force très grande à propos de la justice. Vous voyez. Si la justice, c'est que chacun soit à sa place et fasse uniquement ses affaires sans s'occuper du reste, vous voyez ce que c'est, hein. C'est très curieux comme conception, oui. Alors, dans cette lumière, hein, Platon va regarder la justice dans l'individu. Donc là aussi, je passe assez vite, mais c'est quand même intéressant à voir. Et comment va se faire ce passage, hein. Alors, Platon va dire que, de même, vous voyez, que dans la cité, il y a trois classes de citoyens, de même, il y a trois parties de l'âme. Donc c'est la fameuse vision de Platon, hein, très connue, de la tripartition de l'âme. Et qu'Aristote reprendra dans l'Éthique à Nicomaque d'une autre manière. Vous voyez, hein ? De même qu'il y a dans la cité les gouvernants, les guerriers, et puis les artisans, de même il y a dans l'individu, dans l'âme, trois aspects. Donc la raison qui gouverne, l'irascible, qui donne la force de combattre, et le concupiscible, le désir, dira Platon. Et ici, l'irascible, c'est thumos, hein, le désir d'un bien difficile, et la force de conquête. Alors, je vous lis ça rapidement. Enfin. Transportons cette sorte de vertu dans l'individu. Vous voyez. Donc, vous voyez, on applique à l'individu. Et c'est très étonnant, vous voyez. Donc, je vous repose la question de ce matin. Je vous ai dit, vous voyez, pourquoi Platon prend-il cette démarche? Vous voyez, ça repose sur quelque chose qui est admis au point de départ. Vous voyez, hein, on est passé de l'individu à la cité, et de la cité, on revient à l'individu pour voir ce que c'est que la justice en lui. Donc, pourquoi puis-je faire ce passage? Puisque c'est ce qu'on a vu entre deux, hein, puisque la cité est manifestée uniquement comme, hein, l'assemblage des individus par nécessité. Et Platon va dire ça exactement tout de suite, hein, en montrant que c'est absolument identique de l'individu à la cité. On a une relation de similitude, dira Platon. Vous voyez, la cité n'apporte rien de nouveau par rapport à l'individu. Hein, c'est une collection d'individus. Donc la somme des qualités des individus se retrouve dans la cité. Ne l'affirmons pas encore repris, mais transportons cette sorte de vertu dans l'individu. Si elle se fait reconnaître là aussi comme étant la justice, nous n'aurons plus qu'à l'avouer pour telle. Car quelle objection pourrons-nous y faire encore? Dans le cas contraire, nous tournerons nos recherches d'un autre côté. Alors, pour le moment, poussons à bout l'enquête que nous avons instituée, dans l'espoir qu'en essayant d'abord de considérer la justice dans un cadre plus vaste, il nous serait plus facile de reconnaître ce qu'elle est dans l'individu. Il nous a semblé que cet objet était un état, une cité. Et en conséquence, nous en avons fondé un aussi parfait que possible, parce que nous savions bien que la justice se trouverait dans l'état bien organisé. Ce que nous y avons découvert, transportons-le à l'individu. S'il y a parité, ce sera parfait. Si au contraire des divergences apparaissent dans l'individu, nous reviendrons à l'état pour approfondir notre recherche. Et peut-être, en les confrontant et en les frottant, pour ainsi dire, nous en ferons jaillir la justice, comme on fait jaillir du feu de deux bouts de bois. Et quand elle apparaîtra en pleine clarté, nous l'affermirons solidement en nous-mêmes. Lorsqu'on dit de deux choses, l'une plus grande, l'autre plus petite, qu'elles sont la même chose, sont-elles dissemblables par ce qui fait dire d'elles qu'elles sont la même chose, ou sont-elles semblables par là ? Elles sont semblables. Ainsi, un homme juste ne différera nullement d'un état juste, en ce qui regarde la qualité juste, en ce qui regarde la qualité même de la justice, mais il lui sera semblable. Il lui sera semblable, dit-il. Or, il nous a paru qu'un état était juste quand les trois classes d'esprit qui le composent faisaient chacune ce qu'elle avait à faire, que d'autre part il était tempérant, courageux et sage, grâce à certaines dispositions et qualités correspondantes de ces mêmes classes. C'est vrai. Si donc, amis, nous trouvons dans l'âme de l'individu aussi ces mêmes genres de qualités, nous jugerons qu'il mérite les mêmes noms que la cité, puisqu'il a les mêmes dispositions. Vous voyez, donc Platon, je ne vais pas lire ça, hein, va justifier le fait qu'il y a dans l'âme ces trois parties. Et chacune des parties ayant sa vertu propre, et la raison a pour vertu la sagesse, hein, ou la prudence. L'irascible qui est en nous a pour vertu la force. Et le concupiscible qui est en nous a pour vertu la tempérance. L'harmonie de l'individu, donc vous voyez le fait qu'il y ait un ordre dans l'individu qui soit conforme à ce qu'il doit être, c'est ça la justice. Être juste, c'est vivre conformément à ce qu'est notre nature. C'est très intéressant. Donc vous voyez comme c'est fort. Hein. Ça veut dire que pour Platon, toute la conception politique repose sur la conception qu'il a des rapports de l'âme et du corps. Et c'est ça le nœud. Hein, je vous avais lu ça ce matin, le passage de la lettre 7 qui nous montrait ça. La conception qu'on a de l'âme, c'est cela qui fonde la communauté politique. Et donc, surtout la conception qu'on a des rapports de l'âme et du corps. Parce que si on est dans une cité, encore une fois, c'est à cause du corps. L'âme par elle-même est faite pour la contemplation. Donc, elle échappe à la cité. Et là, il y a quelque chose qui est juste. Vous voyez ? Mais si on est dans la cité, c'est à cause de notre corps. Et donc, cette âme liée au corps, vous voyez, impose une certaine nature qu'on doit respecter pour être dans la justice. Vous voyez comme c'est important, hein, par rapport à certains qui veulent fonder l'éthique sur la loi naturelle. Puis-je dire ça? Et qu'est-ce que c'est que la loi naturelle? Ici, vous voyez, c'est très fort cette vision de Platon. Étant donné les rapports de l'âme et du corps, on voit que la justice est une harmonie dans l'individu. Et celui qui gouverne, c'est celui qui doit légiférer de telle sorte qu'il puisse façonner les individus en fonction de cet idéal de justice qu'ils doivent atteindre. Hein, je ferai allusion tout à l'heure à un texte de Platon qui est extrêmement fort, et ce sera la conclusion. Hein. Et il faut bien voir ça, vous voyez, hein, que ce passage, vous voyez, au point de vue de la, si vous voulez, au point de vue, je dirais dans un langage plus proche de nous, hein, du point de vue de la cause exemplaire, pour comprendre la justice, il faut la regarder dans la cité. Mais du point de vue de l'origine de la justice, elle est dans l'individu en fonction des rapports de l'âme et du corps. Oui. Donc, si chacun de nous est juste, la cité sera juste. Oui. Ce n'est qu'un prolongement. Vous voyez, si on réfléchit à la question qu'on s'est posée en commençant ce matin, c'était de la famille et la communauté politique. Pour Platon, il n'est pas du tout question de ça. C'est je passe de l'individu à la communauté politique. Et la communauté politique n'est qu'une somme des individus. Qui doivent, au fond, se respecter simplement, que chacun soit à sa place, et c'est ça qui fera la communauté politique. Oui. Alors, vous voyez, au fond, hein, ça va être en fonction de la réalisation de l'idéal du philosophe. Alors, vous voyez, c'est pour ça, alors Platon dira que la justice, c'est par conséquent la santé de l'âme. La justice étant l'équilibre et l'harmonie, c'est la santé de l'homme. Alors, pour réaliser cela, vous voyez, il va y avoir trois aspects. Je ne vais pas tout citer, hein, je vais simplement regarder un aspect, deux aspects. Et pour réaliser cette cité idéale, Platon va dire qu'il y a certaines conditions qui sont nécessaires. Donc, ces trois conditions, hein, je n'en prendrai que deux, je vous les rappelle. Ces trois conditions, c'est premièrement que l'éducation des hommes et des femmes soit la même. Donc Platon commence par montrer que la femme doit être soldat tout comme l'homme. Donc vous voyez, qu'est-ce qui est... Vous voyez, c'est très intéressant, parce qu'au-delà de l'aspect, vous voyez, un peu polémique qui est derrière ça, ce qui est très important, c'est que Platon montre qu'au fond, tout ce qui est au cœur de ça, c'est le problème de l'éducation. Si on veut réaliser cette cité idéale, il faut qu'on réalise dans l'éducation, vous voyez, qu'on façonne les hommes en fonction d'une éducation. Et donc, première nécessité, qu'il n'y ait aucune différence entre l'homme et la femme. Deuxième aspect, c'est surtout ça qui nous intéresse, hein, pour le sujet qu'on voudrait voir, hein, c'est la communauté des femmes et des enfants. Alors oui, je vais lire un ou deux passages, parce que c'est quand même très, très parlant. Et puis on essaiera de voir pourquoi Platon peut-il dire cela. Donc c'est le début du livre 5. Hein. Donc vous voyez, encore une fois, ce sont dans 449a. Hein, ce sont les conditions nécessaires pour que la cité idéale puisse exister. Alors vous voyez, au fond, ce que Platon va dire, vous voyez, s'il faut que chacun soit à sa place et pour réaliser la justice, ce qu'on vise à travers tout cela, c'est l'unité de la cité. Et on cherche l'unité la plus grande possible pour que surtout, il puisse y avoir aucune chose extérieure qui vienne détruire la justice, vous voyez, l'harmonie qui est réalisée. Vous voyez, c'est très intéressant parce que... Hein, Comment peut-on voir ça? Vous voyez le rapport? Vous voyez, ce serait une question. Oui, est-ce que. Oui, parce qu'au fond, pour Platon, il n'y a surtout pas d'immigration possible. Oui. Il faut une unité la plus grande possible dans la cité. Donc, vous voyez, c'est une question qui est très importante à résoudre au point de vue philosophique. Hein. Qu'est-ce qui permet à une communauté politique d'intégrer en elle, dans une véritable unité, des éléments qui lui sont étrangers au point de départ? Oui. Est-ce que c'est l'unité? Donc est-ce que chacun soit à sa place et fasse ce qu'on lui demande? Oui. On dira, j'ai pas besoin de vous. Ou bien au contraire, je vous accueille parce que j'ai besoin de vous, donc je vous exploite. Oui. C'est exactement le raisonnement actuel. Hein. Ou bien on peut l'intégrer dans une finalité commune. Donc vous voyez, c'est une question qui se pose réellement, hein, et Platon et Aristote la posent. Platon et Aristote posent tous les deux la question du territoire de la cité, hein, et de la grandeur de sa population, et des liens de la cité avec les pays étrangers. C'est un problème très intéressant, parce que c'est le conditionnement politique, ça. Et c'est déjà vrai d'une famille, vous voyez. Dans une famille, qu'est-ce qui fait, où est l'unité de la famille, et où, à partir du moment où la famille est-elle trop repliée sur elle-même, vous voyez. C'est une question. Donc, vous voyez, comment je dois distinguer? Hein, ce sera la critique que fera Aristote. Comment puis-je distinguer l'individu, la famille, la cité? Pour Platon, il y a continuité. Ce qui fait, dit au fond Platon, hein, que la cité en définitive est comme un seul individu. Elle est, dira Platon, elle est comme un corps. Un corps unique. Et Platon dit c'est comme un grand animal qu'on doit flatter avant de monter dessus. Vous voyez, il y a une unité. Donc, au fond, oui, l'aspect communautaire n'est pas pour Platon quelque chose qui apporte quelque chose de nouveau par rapport à l'individu. C'est la même chose, c'est la même clé pour comprendre. Donc, l'unité de la cité, dit Platon, doit donc être la même que celle de l'individu. Oui, pouvons-nous dire cela? C'est une question très importante. Hein. C'est la question du rapport entre l'unité de la cité et le bien de la cité. Puis-je comprendre les rapports entre individu, famille et cité par la question de l'unité? Ou bien est-ce que je les comprends par la question du bien, donc de la finalité? Oui, et je vous ai dit ce matin, si c'est l'unité, c'est la justice. Si c'est le bien, c'est la prudence. Donc on essaiera de comprendre ça. Alors je vous lis ça, hein, maintenant pour que vous voyez bien. Il me semble que tu en prends à ton aise. Donc, vous voyez, Glaucon, vous voyez, interroge Socrate parce que Socrate a évoqué au début, hein, le fait qu'il fallait la communauté des femmes et des enfants. Puis là, il semble la passer complètement sous silence. Il dit, vous voyez, c'est terminé. Tout le monde est d'accord, j'ai fondé la cité idéale, donc avançons. Et l'autre, il dit, mais pas du tout, il y a des choses que tu n'as pas justifiées. Donc, premier 1, il semble que tu en prends à ton aise et que tu nous dérobes un chapitre entier et non le moins important pour n'avoir pas d'explication à donner. Tu as cru nous échapper en disant négligemment qu'au sujet des enfants et des femmes, tout le monde sait bien que tout est commun entre amis. tout est commun entre amis. Donc vous voyez, ça aussi c'est très intéressant. Oui. Parce que vous voyez, quelle différence dois-je faire entre l'amitié, hein, donc l'amour d'amitié, qui est une amitié personnelle, et la vie commune dans la cité. Oui. Alors, vous voyez, c'est une question importante. L'amitié qui doit exister entre les citoyens, qui est une certaine amitié politique, qui réalise une vie commune parfaite entre les citoyens, quelle différence a-t-elle avec l'amour d'amitié personnelle ? Vous voyez, c'est la question du mariage qui est derrière. Et si je dis tout est commun entre amis ? Donc ça veut dire qu'entre tous les citoyens de la même cité, pour Platon, il y a une amitié parfaite. C'est curieux. Alors, n'est-ce pas exact, adiment, donc que tout est commun entre amis ? Si, mais cette exactitude a besoin, comme tout le reste, d'être expliquée, afin qu'on voit en quoi consiste la communauté, et la koinonia, la mise en commun. Car il y en a de bien des sortes. N'omets donc pas de dire quelle est celle que tu as en vue. Il y a longtemps que nous attendons, espérant que tu parleras enfin de la procréation des enfants, que tu diras comment tu la comprends, comment une fois nés on les élèvera, en un mot, tout ce qui se rapporte à cette communauté des femmes et des enfants que tu proposes. Vous voyez, c'est le problème fondamental de la cité. Enfin, pas fondamental, ce qui est au cœur de la cité, mais que Platon va montrer comme la condition la plus importante. C'est le problème de l'éducation qui prolonge ce que c'est que la procréation. Et vous voyez, ça aussi, c'est un problème très intéressant à étudier au point de vue politique. Et je pense que le Père Philippe développera ça avec vous, beaucoup, en montrant que c'est le problème de la procréation qui est le fondement de la communauté politique. Puisque, hein, il vous montrera sans doute, je pense, que dans le mariage, il y a l'amour d'amitié entre l'époux et l'épouse qui implique la fécondité. Et donc, l'éducation, la responsabilité propre des parents. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on pourra dire que le fondement entre l'éthique et la politique est le même. C'est bien l'amour d'amitié. Mais du point de vue de la politique, c'est un amour d'amitié entre l'époux et l'épouse qui est lié à un aspect naturel qui implique la fécondité. Oui, ça veut dire que, au point de vue philosophique, la manière dont on comprend ce problème, vous voyez, des rapports entre fécondité et amour d'amitié de l'époux et de l'épouse, c'est ça l'aspect fondamental de la communauté politique. C'est pour ça que ce sont des lois si importantes quand on légifère là-dessus. Parce que ce qui est en jeu derrière ça, c'est la conception qu'on a de la communauté. Donc c'est important d'essayer de voir ça. Maintenant que tu passes à une autre forme de gouvernement, avant d'avoir suffisamment éclairci ces questions, nous avons résolu, comme tu viens de l'entendre, de ne pas te laisser aller plus loin que tu n'expliquais tout cela comme tu as fait le reste. Alors, ne réponds plutôt à nos questions sans te lasser. Et expose-nous tes idées sur la communauté des femmes et des enfants parmi nos gardiens. Et sur, hein, je n'invente rien, l'élevage des enfants encore tendres, dans le temps qui va de la naissance à l'âge où on les instruit. Cet élevage paraît être des plus pénibles. Essaye donc de dire de quelle manière il faut le conduire. Heureux homme, dis-je, tu ne mesures pas la difficulté d'une telle exposition. Elle soulèvera beaucoup plus de doutes encore que ce que nous avons dit jusqu'à présent. On ne croira pas que mes idées soient réalisables. Et en admettant qu'elles le soient, on doutera encore qu'elles soient les meilleures. C'est pourquoi j'hésite à y toucher. J'ai peur, cher ami, qu'on ne les prenne pour des utopies. Et donc, vous voyez, Platon a tout à fait conscience. N'hésite pas, répliqua-t-il. Tu as pour auditeur des gens qui ne sont ni bornés, ni obstinés, ni malveillants. Alors, vous voyez, donc Socrate va développer ça. Pour des hommes nés et élevés comme nous l'avons exposé, il n'y a pas, à mon avis, d'autre moyen de bien régler la possession et l'usage des femmes et des enfants que de leur faire suivre la voie nous les avons engagés en commençant. Lorsque nous avons entrepris dans notre plan de constituer nos guerriers comme des gardiens de troupeaux. C'est vrai. Suivons donc notre principe et attribuons aux femmes le même naturel et la même éducation qu'aux hommes. Et voyons si cela convient ou non. Comment, dit-il ? Ainsi. Oui, je préviens, c'est assez cru, hein, mais... Croyons-nous que les femelles des chiens de garde doivent veiller comme les mâles sur les troupeaux, chasser avec eux et faire tout en commun, ou qu'elles doivent garder le logis, comme incapables d'autre chose que d'enfanter et d'élever des petits, tandis que le travail et le soin des troupeaux sont le partage exclusif des mâles. Nous leur demanderons de tout faire en commun, dit-il, mais en tenant compte de la faiblesse des unes et de la force des autres. Est-il possible de mettre un animal au même usage qu'un autre si on ne le nourrit et ne le dresse pas de la même manière ? Ce n'est pas possible. Si donc nous imposons aux femmes les mêmes fonctions qu'aux hommes, il faut aussi leur donner la même éducation. Oui. Vous voyez tout ce que Platon va développer. Alors il va montrer ensuite, vous voyez, que la rencontre, la communauté des femmes et des enfants, est uniquement en vue de la procréation. De telle sorte que personne ne puisse dire « celui-ci est mon enfant, celui-ci est mon père ». Il faut qu'aucun des citoyens ne puisse dire que sa famille lui est la sienne. Vous voyez, tout est commun. En qualité de législateur, tu feras un choix parmi les femmes, comme tu l'as fait parmi les hommes, et tu les assortiras aussi ressemblants que possible. Et les uns et les autres ayant en commun le logis et la table, puisqu'aucun d'eux ne possède rien de tel en particulier, vivront ensemble, se mêleront ensemble dans les gymnases et dans tous les exercices, et ils se sentiront, je pense, entraînés par une nécessité naturelle à s'unir les uns aux autres. N'est-ce pas par une nécessité que cela arrive ? Donc vous voyez, c'est très intéressant. La question de la procréation pour Platon est uniquement une question au niveau de la nature. C'est pour ça qu'au fond, ça ne différencie en rien l'homme de l'animal. Ce n'est pas étonnant, vous voyez, parce que c'est l'âme qui tombe dans la cité par le corps. Donc, tout ce qui relève de la vie végétative n'a rien d'humain pour Platon. C'est uniquement une nécessité naturelle pour la survie de l'espèce. Donc, on doit uniquement favoriser les rencontres, et c'est le législateur qui doit veiller à cela, pour que les enfants qui naissent soient les meilleurs possibles. Et donc, que leurs parents aient le meilleur naturel possible. Alors, vous voyez, je ne développe pas tout ça, parce qu'il y a ensuite des tas de prescriptions, justement, de Platon sur le mariage. Mais ce serait intéressant à développer, vous voyez, qu'on légifère là-dessus pour qu'uniquement, on ait la meilleure chose possible, vous voyez. Il ne faut pas s'en remettre au hasard pour les accouplements, ou pour toute autre action. C'est une chose que ni la religion ni les magistrats ne permettront dans une société de gens heureux. Il est dès lors évident que nous ferions des mariages aussi sains que possible, et nous regarderons comme sains ceux qui seront les plus avantageux à l'État. Oui, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que le mariage ? Et saint, S-A-I-N-T, dit Platon. Donc, selon la volonté des dieux, c'est celui qui est conforme, le plus avantageux à la cité. Et comment seront-ils les plus avantageux ? C'est à toi de me le dire, Glaucon. Car je vois dans ta maison des chiens de chasse et des oiseaux de belle race en grand nombre. « Dis-moi, au nom de Zeus, as-tu pris garde à ce qu'on fait pour les accoupler et en avoir des petits ?»« Tout d'abord, parmi ces bêtes mêmes, quoique toutes de bonne race, n'y en a-t-il pas qui sont et qui se montrent meilleurs que les autres, etc. » Donc vous voyez, il y a une sélection, vous voyez, il y a un eugénisme chez Platon. Il y a une sélection et Platon va jusqu'à dire que même quand il y a un enfant qui est attendu, si on se rend compte que le naturel des parents ne convient pas, il faut pratiquer l'avortement et l'infanticide. Vous voyez, il y a bien un eugénisme et une sélection. Il faut que les enfants, vous voyez, ils sont engendrés pour la cité. Alors vous voyez, la place de la famille, c'est très important. Oui, évidemment, et c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment en grosse lettre ici. C'est dit de manière, vous voyez, caricaturale. Mais c'est la question qu'il faudra nous poser. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est présent en germe dans toute vision de l'État qui repose sur l'individu, vous voyez ? Autrement dit, vous voyez, tout revient à cette question, c'est ce qu'on reverra ce soir, le lien entre l'individu et la cité, le lien entre la famille et la cité. Et si on découvre philosophiquement que la famille est quelque chose de naturel, ce n'est plus sur l'individu que la cité repose. C'est ça qu'il faudra voir. Ça va être tout l'effort d'Aristote face à Platon, de montrer que la famille est la cellule fondamentale de la communauté politique. Et donc, la communauté ne repose pas sur l'individu, mais sur la famille. La cité, oui. Et donc, elle doit respecter cet aspect naturel. Or, la famille implique non pas un choix uniquement naturel, mais c'est un aspect naturel qui est présent dans un aspect humain qui implique l'amitié. Et donc, tout est là. Et si je creuse jusqu'au bout, vous voyez, c'est les rapports entre justice, unité, amitié et prudence. Tout est là. Et si le fondement, c'est l'individu, c'est par l'unité et la justice qu'on regardera la cité. Et donc, c'est le communisme le plus total, vous voyez. Il faut que l'individu se fonde dans le tout, jusque dans l'aspect le plus personnel qui soit. Et uniquement en étant au niveau de la nature, vous voyez. Si on regarde le fait qu'il y a une amitié qui implique un choix libre, donc vous voyez, une éthique par conséquent, une éthique personnelle, entre l'homme et la femme, et que c'est cela qui implique la fécondité, donc vous voyez, c'est la question du mariage et de la famille, la cité n'est pas constituée uniquement en vue de la justice et de l'unité, mais en vue du bien commun grâce à la prudence et pour le bien vivre, dira Aristote. voyez, c'est là que le débat se noue. Hein. Donc, ce qui est derrière cela, c'est bien le rapport entre l'unité et le bien. Alors, je ne vais pas développer hein, tout cela, vous voyez, il faudrait le creuser, mais en montrant que, vous voyez, je résume ça en disant que pour Platon, c'est vraiment la communauté des femmes et des enfants, pour lui, c'est pour que l'unité de la cité soit parfaite. Il faut qu'il y ait l'unité la plus grande possible et que chacun ne puisse s'attribuer quelque chose en propre. Que personne, je veux dire, personne ne puisse s'attribuer quelque chose en propre. Donc on est uniquement relatif au tout, comme un individu, comme une partie relatif au tout. Alors celui, je termine là-dessus, parce que je ne voudrais pas revenir trop sur Platon ce soir, celui qui sera responsable de ça, c'est le philosophe. Donc Platon dit qu'on doit par conséquent forcer le philosophe à gouverner. Il ne doit pas se contenter de contempler le bien en soi, mais on doit l'obliger à gouverner. C'est donc à nous, les fondateurs de l'État, repris-je, d'obliger les hommes d'élite à se tourner vers la science que nous avons reconnue tout à l'heure comme la plus sublime de toutes, à voir le bien et à faire l'ascension dont nous avons parlé. Mais lorsque parvenus à cette région supérieure, ils auront suffisamment contemplé le bien, gardons-nous de leur permettre ce qu'on leur permet aujourd'hui. Quoi donc ? De rester là-haut et de ne plus vouloir redescendre chez nos prisonniers, ni prendre part à leurs travaux et à leurs honneurs plus ou moins estimables. Vous voyez ? Et alors Platon justifiera ça en disant « On n'a pas pour but de rendre uniquement tel ou tel heureux, mais l'ensemble. » Et donc, voyez, je crois qu'en définitive, ce sera ça la vision de Platon. Il y a le monde du bien en soi qui est contemplé par le philosophe. Et le philosophe, en contemplant le bien en soi, s'identifie à ce monde divin. Le bien en soi, c'est une cause exemplaire que le philosophe contemple, c'est un idéal. Le philosophe, en le contemplant, se façonne sur ce bien. Il vit donc dans la justice. En contemplant, il réalise en lui la justice. Et il doit donc, dans cette lumière, façonner les autres hommes en fonction de ce qu'il est lui-même. Hein, Platon dit, le philosophe qui gouverne, c'est comme un artiste qui peint une toile. Il doit commencer par nettoyer la toile avant d'appliquer les couleurs. Donc que fait le philosophe roi ? Parmi les hommes qu'il doit gouverner, il élimine tous les opposants. Par tous les moyens, dit Platon, l'ostracisme, le mensonge et même le meurtre politique. Ayant éliminé les opposants, il peut façonner à son gré, en fonction de ce qu'il est lui-même, les mœurs des hommes. Et donc réaliser la justice dans la cité idéale, celle qu'il contemple dans le bien en soi. Vous voyez, ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire que la vision qu'a Platon, c'est en définitive une vision artistique. Il y a un idéal, et on réalise une œuvre qui est la cité en fonction de cet idéal qu'on poursuit. Et celui qui est l'intermédiaire entre les deux, c'est le philosophe. Il se façonne sur le bien en soi, et il a par conséquent autorité et tout pouvoir pour façonner les autres en fonction de ce qu'il est lui-même. Donc, vous voyez, les amener à lui. C'est pour ça, vous voyez, qu'on aboutit en fait à une tyrannie, vous voyez, chez Platon. Je façonne les autres en fonction de l'idéal que j'ai de la cité. Je réalise mon œuvre, si vous voulez. Alors, ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est très intéressant à voir, vous voyez, comme vision. C'est, ce qui commande ça, c'est bien... Vous voyez, c'est bien la connaissance artistique et non plus une connaissance politique d'un autre type. Oui. Quelle est l'intelligence du gouvernant ? Est-ce que c'est une intelligence d'artiste ? Est-ce qu'il façonne les autres en fonction de l'idée qu'il a ? Et il faudra essayer de voir ça tout à l'heure. Donc ce soir, je...